Bonsoir, alors je dois d'abord excuser Pierre Dardot qui donc devait présenter ce soir avec moi le texte dont je vais vous parler à l'instant. Il n'a pas pu venir pour une raison grave qui est le décès de son père. Il est évidemment de tout cœur avec nous et m'a confié donc la tâche de lire la partie du texte qu'il avait plus précisément conçu et rédigé. Alors le texte en question qui a circulé, que vous avez eu, c'est une version allongée, approfondie, développée sur un certain nombre de points d'un article qui est paru dans la revue Cité, numéro 43, cet automne, dans un dossier qui s'appelle « Socialisme, y revenir ». Ce texte, donc, est une version remaniée et développée. Alors, l'intention que nous avions et nous avons dans ce texte et dans ce travail, puisque ce n'est que le commencement d'un travail que nous faisons ensemble, c'est finalement d'interroger quelque chose qu'on pourrait appeler l'histoire du commun. Au fond, c'est l'idée que la contestation du capitalisme, les premières formes de communisme, le mouvement ouvrier dès sa naissance, ont entamé des formes de réflexion, de création, d'élaboration, donc de ce que l'on pourrait appeler des figures du commun. Une série, en quelque sorte, de figures du commun. Donc, dans notre séminaire et dans notre travail, il importe d'être au clair sur cette histoire, et spécialement pour comprendre en quoi a consisté précisément l'élaboration de Marx et d'Engels, c'est-à-dire du communisme ou du socialisme scientifique par rapport à des formes antérieures ou des formes contemporaines de communisme ou de socialisme. Ce qui nous a frappé, évidemment, et ce à partir de quoi nous avons commencé notre interrogation, c'est la dualité des expressions communisme et socialisme. Communisme et socialisme, pourquoi deux expressions ? Est-ce qu'elle renvoie à des conceptions, à des concepts différents ou non? Est-ce qu'on peut utiliser l'un pour l'autre? Est-ce que socialisme, c'est une forme dégradée, inférieure du communisme, etc. Toutes ces questions ont été évidemment l'objet d'une sorte de rigidification dogmatique dans le marxisme orthodoxe, à partir de Kautsky ou à partir de Lénine, alors que, comme on le verra, chez Marx, les choses ne sont peut-être pas aussi claires que, je dirais, les marxistes l'ont longtemps pensé. Alors, nous sommes partis de la dualité communisme et socialiste, et nous avons une thèse, si je puis dire, qui consiste à dire que, finalement, derrière ces deux termes, il y a deux concepts différents, celui de communauté et celui d'association. Et ce que nous prétendons, ou nous voudrions faire, c'est d'esquisser une première généalogie, donc, de cette dualité, qui, donc, a pris la forme de communauté et association, ou de communisme et de socialisme. La constitution de cette dualité communauté et association ne va pas de soi. En premier lieu, sur le plan philosophique. En effet, cette dualité a une histoire et on peut évoquer deux moments importants. C'est d'abord la critique que fait Aristote de Platon dans le livre 2 des Politiques et surtout dans le chapitre 2 qui est entièrement commandé par la question jusqu'où doit aller finalement l'unité d'une communauté politique. Est-ce que cette unité doit aller jusqu'à la communauté des biens comme le suppose, comme le prétend Platon dans la République, au moins pour deux groupes qui sont les gardiens et les guerriers de la cité. Pour Aristote, et on se rappelle ce passage du chapitre 2, donc du livre 2, ce serait, comme il dit, un excès d'unification de la communauté qui aboutirait à la négation de toute multiplicité, la négation de toutes les différences spécifiques qui font précisément vivre, prospérer la cité elle-même. Et ce serait donc purement et simplement la ruine de la cité. Et La deuxième référence que l'on peut faire, c'est celle de Rousseau qui oppose dans le contrat social l'agrégation et l'association pour mieux penser le contrat social comme un acte d'association et le corps politique qui résulte de cet acte comme à la fois une association et une communauté. Alors, pour comprendre cette dualité entre communauté et association, en particulier au début du XIXe siècle, il faut rappeler que ces deux noms, ces deux termes, au début des années 1840, étaient plutôt, en tout cas pour un certain nombre d'auteurs, deux aspects d'un même principe, plutôt que deux doctrines nettement séparées. Ainsi, par exemple, Moses Hess rapporte le socialisme à une théorie et le communisme à la vie pratique. Le premier étant relatif à l'organisation du travail, tandis que le second, le communisme, embrasse la totalité de la vie sociale. Une lettre de Marx à Ruge de septembre 1943 est à cet égard extrêmement intéressante, puisqu'il voit dans le communisme existant une abstraction dogmatique, c'est son expression, et donc qui va dans le même sens en faisant du communisme une réalisation particulière, partielle du principe socialiste. Donc on est très loin, dans les premiers écrits de Marx, d'une opposition entre deux principes. Donc la question c'est pourquoi cette alternative au capitalisme prend-elle ces deux formes, ces deux noms, socialisme et communisme ? Le marxisme orthodoxe dont je parlais tout à l'heure a répondu d'une façon extrêmement simple. Dans cette distinction, il ne serait question que d'une progression historique qui irait du socialisme, terme qui désignerait une première étape de la société communiste, jusqu'à l'étape finale de la société communiste pleinement développée dans laquelle l'État ne serait plus nécessaire. La première forme, cette forme donc encore inachevée, très loin d'être inachevée, porterait, comme le dit Marx, les stigmates de l'ancienne société, des flancs de laquelle elle est issue. On sait en fait que Marx s'est bien gardé de désigner la première forme en question de socialiste. Cette idée apparaît par contre très clairement dans le chapitre 5 de l'État et la Révolution de Lénine. Et en même temps, on connaît le destin historique de cette distinction par étapes, puisque elle a permis de légitimer la persistance de l'État, et Dieu sait si celui-ci a été peu enclin à disparaître ou à dépérir. Ce que l'on trouve chez Marx, c'est plutôt à l'intérieur du communisme, donc une opposition entre l'utopie et la science. Cette opposition est déjà en germe dans la typologie des trois formes du communisme dans les manuscrits de 1844. Ce qui fait donc la supériorité, dit Marx, du communisme élaboré, donc du communisme achevé, sur les formes antérieures, celles du communisme grossier de Babeuf et celle du communisme inachevé chez Cabet, c'est que seul le premier comprend la suppression de la propriété privée comme le résultat de tout le mouvement de l'histoire. De ce point de vue, l'opposition du communisme au socialisme n'est guère pertinente. Le manifeste de 1948 le confirme, qui intitule Tout un développement et qui est bien connu à la fin dans la dernière partie, Tout un développement dans le chapitre 3 sur le socialisme et le communisme critique et utopique. Cependant, c'est sans doute à Engels qu'il est revenu de théoriser dans son opuscule qui est extrêmement connu, qui a eu un grand retentissement, qui s'appelle Socialisme utopique et socialisme scientifique. Donc c'est sans doute à Engels qu'il est revenu donc de théoriser l'opposition entre le moment utopique et le moment scientifique du socialisme, le moment utopique étant caractérisé, selon les critères du matérialisme historique, comme une forme encore inférieure du fait qu'il correspondait à un état de la société qui était encore peu développé, un état des forces productives peu développé, et surtout un moment où les luttes de classe ne permettaient pas d'envisager justement que le mouvement de l'histoire correspondait précisément à cette sortie, à cette suppression de la propriété privée. pointons ici que quand Engels parle d'opposition entre socialisme utopique et socialisme scientifique, on ne peut que difficilement imaginer qu'il oppose socialisme et communisme. On peut tout aussi bien dire communisme utopique et communisme scientifique. Donc, finalement, lorsqu'on regarde les usages chez Marx et Engels des expressions communisme et socialisme, on n'est pas très avancé, si je puis dire, sur le chemin de la résolution du problème que nous avons posé. Il faut peut-être aller plus loin dans l'examen de cette étrange dualité. Les oppositions donc que nous avons mentionnées, en particulier chez Lénine, qui composent quand même une partie importante du marxisme orthodoxe, nous semblent particulièrement insatisfaisantes, particulièrement incomplètes, et il faut donc réviser finalement les conceptions que l'on a. Donc, il nous semble nécessaire de concevoir, de regarder de près l'opposition entre deux perspectives qui sont, à notre avis, des oppositions extrêmement importantes et peut-être pas résolues, justement, dans le marxisme. Et peut-être est-ce pour cela que cette opposition de départ a été, en quelque sorte, effacée, oubliée, en tout cas non discutée. C'est l'opposition très forte entre 1830 et, disons, 1848, l'opposition entre le point de vue de la communauté des biens et celui de l'association des individus. Communauté des biens et association des individus. Alors, cela ne veut pas dire que cette opposition, cette polarisation, nous permet de distinguer toujours très bien chez les auteurs, je dirais, des positions pures. On verra, on pourra en discuter, qu'un certain nombre d'auteurs qui se rangent plus décidément dans la perspective de la communauté des biens, je pense par exemple à Étienne Cabet, et on pourra voir que chez Étienne Cabet, si on lit bien les textes qu'il nous a laissés, que le terme d'association, d'associé, etc., revient relativement souvent. De même que des socialistes qui se réfèrent plus précisément à l'association des individus, il leur arrive de parler bien sûr de communauté. Mais néanmoins, il nous semble extrêmement important de montrer qu'en dépit de ces hybridations, il y a deux conceptions différentes qui structurent, au fond, un certain terrain d'opposition à l'intérieur de tous ceux qui s'appellent communistes ou socialistes. Et celui qui nous a peut-être le plus éclairé sur cette opposition, même si sa lecture à beaucoup d'égards est critiquable, c'est le sociologue Émile Durkheim, dans un cours qu'il a donné à Bordeaux entre 1895 et 1896, un texte bien connu qui porte pour l'essentiel sur Saint-Simon et la doctrine saint-simonienne et qui a été publié sous le titre du « Le socialisme, sa définition, ses débuts, la doctrine saint-simonienne ». Mais, comme on le verra, ce texte va bien au-delà de l'interprétation de Saint-Simon et des Saint-Simoniens. Qu'est-ce que nous indique Durkheim dans ce texte? Eh bien, il nous indique qu'au fond, sous ces termes, et avec ces termes de communisme et de socialisme, nous avons, au fond, le dessin, la conception de deux formes de lien social qui sont très différents. Deux modes, en quelque sorte, de faire société. Deux façons différentes de faire société. Le communisme renvoie plutôt à une certaine subordination de l'individu dans la communauté, à la communauté, une subordination qui vise à garantir l'unité supérieure du tout contre toute forme de cupidité ou d'égoïsme. En d'autres termes, la communauté a pour l'essentiel des vertus morales, sinon des vertus de conduire au salut, comme on le verra. Par contre, socialisme, terme socialiste, va se référer beaucoup plus à une relation d'association entre des individus libres, une association qui est au moins en droit exclusif de toute hiérarchie, en dehors de celle indispensable au fonctionnement de la production. communauté ou association. Donc, tel est l'enjeu initial de cette distinction, deux formes de lien social qui on peut avoir l'une avec l'autre. Une dissociation, une opposition, effacée plus tard par ce que nous appelons la volonté synthétique et hégémonique du marxisme. Le socialisme, pour Durkheim, est une théorie moderne qui vise à réfléchir les rapports entre les initiatives des sujets économiques et le centre régulateur de la société d'une autre manière que le libéralisme. Le socialisme, c'est une forme d'opposition directe au libéralisme et à la coordination des intérêts par le marché. Durkheim définit le socialisme ainsi: on appelle socialiste toute doctrine qui réclame le rattachement de toutes les fonctions économiques ou de certaines d'entre elles qui sont actuellement diffuses au centre directeur et conscient de la société. Et là, je commente, il s'appuie sur des passages non seulement de Saint-Simon, dans ses textes, l'organisateur, le producteur, l'industrie, texte bien connu, mais il s'appuie sur des passages très importants d'un texte dont on aura l'occasion de reparler, qui est l'exposition de la doctrine de Saint-Simon, qui a été publiée donc par les disciples de Saint-Simon à partir de cours et de leçons publiques qu'ils ont données. Et dans ce texte, on voit très précisément que, en effet, il s'agit bien avec l'association d'une coordination consciente des activités économiques. Alors, le socialisme, selon Durkheim, s'appuyant sur les Saint-Simoniens, est une organisation politique de la vie économique, donc en faveur des intérêts de la société. Le socialisme, dit-il, c'est avant tout une aspiration à un réarrangement du corps social, ayant pour effet de situer autrement l'appareil industriel dans l'ensemble de l'organisme, de le tirer de l'ombre où il fonctionnait automatiquement, de l'appeler à la lumière et au contrôle de la conscience. Cet idéal de régulation n'est pas possible avant la société industrielle, précise Durkheim. En réalité, pour lui, le socialisme se distingue précisément par ce qu'on pourrait appeler sa modernité. En tout cas, le fait qu'il est contemporain de la révolution industrielle. Puisque, finalement, le mode d'organisation, c'est un moyen de diriger les actions économiques, d'encadrer leurs rapports, de les faire satisfaire à la satisfaction des besoins matériels. Il faut encore préciser une chose sur laquelle peut-être Durkheim n'insiste pas assez, c'est l'idée qui sera reprise par Marx et par le marxisme, selon lequel le socialisme a une dimension très clairement anti-étatique, mais plus qu'anti-étatique, d'une certaine façon anti-gouvernementale en général, puisque selon l'expression saint-simonienne reprise multiples fois, il s'agit de remplacer le gouvernement des hommes oppressif par des nouveaux rapports de type fonctionnel et que les saint-simoniens appellent l'administration des choses. C'est un mode d'organisation donc qui a ceci de spécifique, qu'il est conçu comme un mode de coopération entre les sociétaires d'une même entreprise, ou plus précisément encore, il s'agit d'une coproduction dans le cadre d'une entreprise et d'une société qui est conçue elle-même comme une grande entreprise. Le socialisme, donc, c'est l'administration économique de la société par elle-même. À l'auto-équilibration des intérêts du libéralisme, le socialisme oppose l'auto-organisation économique consciente des hommes. Le socialisme, donc, n'est rien sans cette association des individus, et plus précisément de l'association des producteurs, expression extrêmement importante à la fois chez les saint-simoniens et dans le marxisme. C'est le mot clé, l'association des producteurs, qui définit très précisément l'objectif du socialisme tel que les saint-simoniens l'ont pensé et tel que Marx l'a repris à son compte. Les producteurs, donc, comme sociétaires d'une administration et non plus comme sujets d'un gouvernement. L'État, de cette façon, est redéfini, il est recomposé comme administration d'une société composée de sociétaires, c'est-à-dire, précisément là aussi, de membres associés à la grande machine productive, à la grande œuvre productive, à quoi se résume en quelque sorte la société. La société comme un organe, un organisme de production. L'association universelle, voilà le but pour les Saint-Simoniens, l'association universelle des travailleurs. C'est un principe donc qui remplacera l'État, mais aussi toutes les autres formes de regroupement humain qui n'ont été jusqu'à présent que des formes partielles de l'association. La famille, la cité, la nation sont des formes de l'association encore inachevées et qui mènent par une progression historique inéluctable à l'association universelle des travailleurs, ce à quoi, comme vous le savez, perspective à laquelle Marx a pleinement adhéré. Une association universelle qui est à la fois le principe de progression de l'histoire et qui s'oppose au principe de l'antagonisme, puisque très précisément le mouvement de l'histoire passe par justement les luttes de toutes les associations partielles, et c'est ce principe de moteur historique de l'antagonisme qui construit, qui mène à cette association universelle. Alors, cette société actuelle, cette société atelier, donc, a comme caractéristique, et je pense que on se souvient tous de ces passages extrêmement importants, elle a pour caractéristique de résorber le politique dans l'économie. Et de ce point de vue-là, les formules qu'utilisera Engels dans le texte que j'ai cité, c'est-à-dire socialisme utopique et socialisme scientifique, sont extrêmement significatives, extrêmement importantes de ce point de vue-là. C'est cette conception qui permet d'imaginer, sinon la fin de l'État, du moins le recul de la politique. Et je crois que c'est à Saint-Simon et aux Saint-Simoniens que, sur ce plan, le socialisme est redevable. Cette matrice saint-simonienne donnera évidemment des enfants très différents, puisqu'il y aura d'un côté le marxisme et aussi de l'autre côté tout le socialisme moral qui, jusqu'au solidarisme républicain, qui se référeront à cette source. On trouverait également, et là je serais plus rapide, on trouverait également une autre conception de l'association, qui parfois, chez un certain nombre d'auteurs, comme Victor Considérant, se sont croisés avec les perspectives saint-simoniennes. On trouverait chez les fourriéristes, donc, une conception tout à fait parallèle et tout à fait passionnante de l'association, fondée sur l'idée de l'unité universel, sur l'idée de la recherche de l'harmonie dans une société qui, elle-même, donc, serait conforme à cet ordre harmonieux. C'est l'harmonie sociale, c'est le régime sociétaire que le phalanstère, précisément, devait refléter à son niveau. Avec comme principe, comme vous le savez, donc l'attraction passionnée, qui, de ce point de vue-là, mériterait une reprise, un réinvestissement, dans la mesure où, comme on le dira tout à l'heure, chez Marx, il semble qu'on ne puisse pas comprendre tout à fait comment il envisageait l'être commun dans la nouvelle organisation sociale sans se référer à l'adhésion profonde au fourriérisme et à l'attraction passionnée, en particulier quant au dépassement de la division du travail. Mais ça sera sans doute l'objet d'une discussion. En particulier les passages bien connus où finalement on a l'impression on a le sentiment qu'on ne pourra dépasser la division du travail qu'à partir du moment où chacun pourra développer la totalité de ses facultés et que cet aboutissement permettera précisément, débouchera sur une harmonie des individus que vous pourrez appeler des individus totaux. Alors, ce qui est intéressant, je crois, dans la conception fouriériste de l'association, c'est que l'on voit jouer, en tout cas chez Victor Considérant, qui en est l'un des principaux interprètes, trois principes, le principe d'ordre, le principe de liberté et de justice. C'est l'idée d'une efficace propre de l'unité, de but et d'action, c'est-à-dire de la convergence des forces, qui assurera prospérité et bonheur. C'est d'autre part l'idée du caractère volontaire de l'association, ça c'est un point que j'ai mentionné tout à l'heure comme étant tout à fait distinctif du socialisme. Et enfin, c'est le rapport à l'idée de la communauté. C'est un principe qui vise à contester ce qui, chez les communautaires, est un égalitarisme complet pour les fouriéristes comme pour les saint-simoniens. Ce qui est contesté, c'est l'égalité de la répartition des biens, dans la mesure où, pour eux, c'est une des formes, justement, d'oppression, de négation de l'individu. Bon. Alors, cette référence à Fourier peut-être signale une des limites de la lecture de Durkheim. C'est que le socialisme ne s'arrête certainement pas à l'organisation consciente de la production par les producteurs eux-mêmes. L'association, dans le socialisme, aussi bien chez les saint-simoniens que chez les fouriéristes, c'est une forme sociale générale. C'est un mode de société, c'est un type de lien social, et c'est une nouvelle morale. Et la dimension morale, elle a souvent était chez Durkheim, enfin elle est curieusement pour un sociologue comme Durkheim, laissée un peu de côté. Au fond, le socialisme, c'est une théorie de l'association comme forme d'organisation de l'économie, comme le dit Durkheim, mais c'est aussi une société pensée comme une relation entre des individus qui s'associent donc volontairement, solidairement, pour se rendre des services réciproques et complémentaires. Et on ne comprend pas cette dimension morale, justement, qui structurera, qui sera extrêmement forte, en particulier dans tout le socialisme français, si l'on le réduit à la seule organisation consciente de la production. Le socialiste Benoît Malon, le communard et l'un des grands théoriciens du socialisme français, Benoît Malon, donc qui jouera un rôle très important, y compris sur la pensée de Jaurès, Benoît Malon donc dira, dans une formule un peu frappante, l'association est la mère non seulement de la moralité, mais encore du développement de l'humanité. Et il ajoutait, sans l'association, l'homme ne serait pas né. Alors, en opposition à ce socialisme reposant sur cette idée d'association, ce socialisme, on peut opposer, comme le fait Durkheim, mais on verra aussi les limites de cette lecture, on peut opposer le communisme qui renvoie à une communauté de vie, de consommation, de pensée, de conduite, une communauté qui tend à expulser tout facteur de division en dehors de la vie du groupe. Alors que le socialisme est plutôt l'idée d'une association d'individus qui sont posés d'emblée comme différents et qui ont besoin de cette association pour coordonner leurs activités, dans le communisme, ce qui prévaut, c'est l'idéal, donc, d'une communauté, non seulement des biens, des conduites et des pensées. C'est, pour Durkheim, un modèle idéal de société qui remonte à loin, qui est porté finalement par toute une série de théoriciens et de philosophes qu'il considère comme des théoriciens et des philosophes isolés. Alors on pense à Campanella, à Mohr, etc. Affirmation qui en fait mérite justement d'être contestée, questionnée et contestée lorsqu'on prend en compte la récurrence dans l'histoire des tentatives qui depuis le christianisme primitif ont cherché à réaliser des communautés, à faire descendre, comme le dit Engels dans une phrase, un morceau de phrase, une expression intéressante, on cherchait à faire descendre le ciel sur la terre. Mais laissons ça de côté pour l'instant. Ce qui caractérise pour Durkheim donc le communisme, c'est qu'il n'est pas centré sur la production des richesses et l'organisation de la production, mais sur un idéal moral de vie commune. Ce n'est pas tant la division sociale du travail que le communisme veut organiser, mais il veut plutôt réaliser une unité spirituelle. Une unité spirituelle, une unité morale et politique et morale qu'il faut préserver contre tout ce qui peut diviser la communauté. Alors que le socialisme est une doctrine contemporaine de l'anthropologie économique du XVIIIe et de la révolution industrielle, pour Durkheim, le communisme est plutôt le refus archaïsant de cette modernité économique. La communauté, qu'elle soit pensée comme microcosme ou macrocosme, vise surtout à se protéger, dit Durkheim, de l'influence antisociale attribuée à la richesse. Il s'agit au fond, si on commente et prolonge un peu la remarque et l'interprétation qu'en donne Durkheim, il s'agit d'extirper du cœur de l'homme ce que les anciens appelaient la pléonexia, c'est-à-dire le désir d'avoir plus que son dû, la soif de illimité, devenue à elle-même de sa propre fin, de la richesse. Le communisme se rapporte donc à ce que Durkheim appelle, dans un autre contexte, la solidarité mécanique entre des unités égales qui produisent chacune de leur côté et consomment en commun, tandis que le socialisme se rapporterait plus à ce qu'il a appelé dans sa thèse la solidarité organique, c'est-à-dire la nécessaire réglementation des activités de production. Mais au fond, c'est là aussi où on peut apporter quelques nuances à la lecture que fait Durkheim, c'est qu'il n'indique pas assez à propos du communisme, tel qu'il ressurgit au début du XIXe siècle, il n'insiste pas suffisamment, sans doute, sur la filiation avec la tradition chrétienne, et même pré-chrétienne, des mouvements communistes. Alors que Engels, de son côté, a fait à plusieurs reprises, et de façon très précise, le rapprochement entre les débuts du christianisme primitif et les débuts du communisme révolutionnaire moderne. Il a bien souligné l'importance, en particulier quand il fait l'histoire de la préhistoire, si on peut dire, de la Ligue des communistes. Il insiste particulièrement sur l'importance de tous ces petits prophètes allemands qui passaient d'une ville à l'autre, d'un village à l'autre, pour répandre la bonne parole et annoncer le règne de la communauté enfin réalisée. Vous verrez ça dans le texte qui s'appelle « Remarques sur l'histoire de la Ligue des communistes ». Le communisme en Allemagne, le communisme parmi les émigrés allemands, en particulier à Bruxelles, à Paris ou à Londres, le communisme en France se caractérise pour lui, pour Engels, donc comme un christianisme. Mieux encore, et il a, de ce point de vue-là, il est bien placé comme témoin direct de ce qui se passe à ce moment-là, il repère bien que le communisme dans cette version 1830-1840, si l'on peut dire, se définit comme le vrai christianisme. Et c'est ce que l'on trouve aussi bien chez Kabe, dont j'ai parlé tout à l'heure, chez Wettling, ou chez Moses Hess. Dans un article que Engels publie dans la revue d'Owen, le New Moral World, il notait de façon extrêmement pertinente que les socialistes anglais, eux, sont généralement opposés au christianisme. Et ils ont plutôt à pâtir, disait-il, donc des préjugés religieux d'un peuple réellement chrétien. Les communistes français, disait-il avec pas mal d'ironie, les communistes français, qui eux appartiennent à un peuple notoire pour son incrédulité, sont eux-mêmes chrétiens, se réclament du christianisme. Un de leurs axiomes favoris, continue Engels, est que le christianisme, c'est le communisme. Et c'est en français dans le texte. Et ils essaient de prouver, précisément par la Bible, et par rien d'autre que la Bible, la nécessité de l'état de communauté. Ajoute Engels, ce qui est intéressant pour l'histoire de la pensée de Marx et d'Engels, justement, et de leur liaison aux communistes allemands de l'époque, Engels remarque qu'il avait retrouvé exactement le même trait chez Wettling, en disant « Wettling et son parti, c'est-à-dire, à l'époque, essentiellement la Ligue des Justes, qui était fondée en 1836, Wettling et son parti sont exactement comme les Icariens en France, c'est-à-dire les disciples de Cabet. Ils prétendent que le christianisme, c'est le communisme. » Alors, il faut, je ne vais pas trop insister là-dessus, mais Engels a parfaitement raison. C'est-à-dire que quand on se rapporte au texte, non seulement le voyage en Icarie, mais un texte encore plus significatif à cet égard, qui est le texte de Cabé, qui s'appelle « Le vrai christianisme suivant Jésus-Christ », qu'il a publié en 1846, on voit qu'à toutes les pages, et il y a plus de 600 pages, à toutes les pages, il n'est jamais question que d'une seule chose, l'identité absolue, parfaite, totale entre communisme et christianisme. Au point que la conclusion de ces 600 ou 700 pages, c'est « Oui, Jésus-Christ est communiste ». Bon, alors c'est ça le communisme de ce moment-là, et ce n'est pas donc, comme Durkheim l'indique, simplement des prophètes, des philosophes isolés qui parsèment l'histoire avec cette histoire de communauté des biens. Non, c'est une véritable continuité de pensée, en tout cas une référence très explicite chez les communistes de cette époque-là, une référence non seulement à la communauté, à la première communauté de Jérusalem, non seulement aux actes des apôtres rédigés par Luc et qui sont cisèle en quelque sorte des formules qui courront tout au long de l'histoire, par exemple à chacun selon ses besoins, cette expression qu'on trouve donc dans les actes des apôtres, c'est aussi toute l'histoire de la tradition monastique, mais c'est également les pères de l'Église auxquels se réfère donc Cabé. C'est chez saint Ambroise qu'il va essayer de trouver les formules qui sont fondatrices de son communisme. Il utilise pour cela donc un certain nombre de formules qui sont en effet extrêmement frappantes, qui condamnent la propriété privée et qui appellent à la communauté, à la communauté des biens. Une formule que je cite comme ça, mais je ne serai pas trop long sur ce plan, je les ai donné dans le texte. Cabé explique donc notre communisme est donc le vrai christianisme, nous sommes les vrais chrétiens, les disciples de Jésus-Christ, c'est son évangile qui est notre code et c'est sa doctrine qui est notre guide. À distinguer, oui, un point important, à distinguer du nouveau christianisme de Saint-Simon. Alors, il y avait à l'époque précisément concurrence entre d'un côté le nouveau christianisme de Saint-Simon et le vrai christianisme de Cabé. Le point important, c'est que pour Saint-Simon, il y a besoin d'un nouveau christianisme, précisément parce que le vieux christianisme est totalement dépassé. Nous n'avons plus rien à faire avec une forme épuisée de religion qui ne peut plus servir d'appui, précisément, au projet socialiste. Par contre, pour Cabé, c'est un mouvement très différent qui est fait. Ce n'est pas du tout un abandon d'un supposé vieux christianisme, c'est au contraire un réinvestissement du christianisme et des formules des pères de l'Église sur la communauté des biens. Alors, l'explication que donne Cabé, aussi je serai rapide, l'explication que donne Cabé de l'échec du christianisme. Il faut bien qu'il explique pourquoi finalement 2000 ans n'ont pas suffi à réaliser la communauté des biens. Eh bien, l'idée chez lui très très forte, c'est que finalement les communautés qui se sont créées sous l'inspiration donc de Jésus ont été mal organisées. Au lieu de réunir des familles qui auraient engendré donc une société, les communautés donc ont été des communautés d'hommes, des communautés de femmes, qui n'ont pas permis précisément de s'étendre à toute la société. En quelque sorte, c'est parce qu'il y avait un défaut d'organisation que le communisme ne s'est pas répandu sur la terre. D'où le projet icarien, qui consiste à reprendre donc purement et simplement le code de Jésus-Christ, la doctrine des évangiles, de la communauté des biens, pour enfin réussir ce que le christianisme n'a pas réussi à mettre en place. Un point aussi important, c'est que cette idée n'est pas isolée. Alors je ne sais pas si Engels n'est pas trop optimiste lorsqu'il dit qu'il y a donc au milieu des années 40 500 000 Icariens, 500 000 prolétaires Icariens en France, et que c'est véritablement un vrai mouvement de masse de l'époque. En tout cas, de ce qu'on lit autour de ce mouvement, en particulier chez Henri Desroches, qui en a été l'historien, qui a publié les textes, aussi bien des Icariens que d'Engels, etc., dans un certain nombre d'ouvrages qui sont extrêmement utiles aujourd'hui. Pour Henri Desroches, il est assez clair qu'on peut trouver des traces y compris tardive, de cette imprégnation de christianisme. Pour ma part, j'ai trouvé donc dans une brochure qui s'appelle « L'individualisme et le communisme », rédigée par un artisan, Le Fuel, qui se réclame du communisme, des expressions typiques de l'époque. Et on est là en avril 1848, donc, où il explique que Jésus est le premier républicain de l'univers et le premier martyr de la liberté et de l'égalité. Et il ajoute « La doctrine du Christ n'est pas seulement républicaine, elle est communiste ». Bon, on peut même trouver, et de façon un peu plus curieuse et de façon un peu antérieure, chez des gens qu'on ne pensait pas être aussi imprégnés eux aussi de christianisme. Je pense, j'étais assez étonné de trouver donc chez les babouvistes, et en particulier chez le premier d'entre eux, chez Buonarroti, des indications d'une filiation, d'une revendication de filiation entre la théorie des égaux et le christianisme. Enfin, en tout cas, sur ce plan, ce que signale Engels dans les textes de 1844, donc à un moment où il est témoin direct de ce communisme, mais aussi plus tard, lorsqu'il revient sur l'histoire dans les années 1880, ce qu'avance Engels est parfaitement fondé. Le communisme allemand et le communisme français de cette époque sont très nettement des formes de religion, des formes chrétiennes revendiquées comme telles. Alors, les limites cependant de la théorie de la thèse de Durkheim. Dans les formes historiques donc de ce communisme religieux, ce qui domine, c'est en effet l'idée du renoncement au bien, le choix de la pauvreté voulu au moins sur le plan du renoncement donc à toute propriété privée, c'est l'idée d'une mise en commun totale des biens, l'idée d'une communauté de vie complète qui vont permettre de changer l'individu, d'améliorer le niveau moral de la société, qui vont permettre, y compris, un progrès spirituel et intellectuel. Le dépouillement des biens personnels, la vie commune, sont, comme les premiers chrétiens, des moyens, qu'on pourrait dire des moyens de salut. C'est en tout cas des moyens d'expurger la société de tous ses vices, l'égoïsme, l'enrichissement pour l'enrichissement, l'inimitié, l'hostilité, le conflit dans la société. Durkheim, sur ce plan, a très certainement raison. Mais là où on doit en même temps apporter quelques nuances, c'est qu'il ne voit que le côté archaïsant du communisme allemand et français des années 30 et 40. Or, il semble qu'en lisant de près les textes dont je vous ai parlé, il semble quand même que les communistes de cette époque ne sont pas que des continuateurs du Christ prêchant la communauté des biens. Il y a autre chose. Il y a depuis Babeuf, depuis Buonarroti, et avec Cabé, des glissements qui se sont opérés. Le communisme, en effet, se conçoit non pas seulement comme une mise en commun des biens, comme c'était le cas, on le voit parfaitement dans la première communauté de Jérusalem de 33 à 37, et selon les actes des apôtres et selon les historiens, mais on voit que c'est bien autre chose, puisqu'il s'agit là aussi d'une organisation collective du travail, guidée par la préoccupation non seulement d'une vertu, mais aussi dans une préoccupation de bien-être matériel des membres de la communauté. Donc sur ce plan-là, il n'y a pas que cette dimension morale et religieuse. Ce n'est pas seulement un communisme de la consommation, selon une expression de Kautsky, c'est aussi un communisme de la production et de l'organisation du travail, fondé sur l'égalité la plus parfaite et de la répartition des biens et des efforts de travail, c'est-à-dire une reprise de ce que, là pour le coup, Babeuf avait bien affirmé, il ne peut y avoir d'égalité dans la jouissance que s'il y a égalité dans les efforts de travail. Et Cabet reprend absolument cette thèse. En particulier avec des formules que je cite, tous travaillent le même nombre d'heures, etc., etc., qui est un principe de base de la société icarienne. Autre chose que passe sous silence Durkheim, c'est la place du progrès technique et de la machine. Et là encore, on ne peut pas seulement identifier communisme et communauté des biens, puisque pour Cabet, il est très clair sur ce point, une des raisons, peut-être, il ne le dit pas comme tel, j'ai dit tout à l'heure pourquoi le christianisme avait été trahi, mais une des raisons pour lesquelles il a été difficile de mettre en place la communauté telle qu'elle était prévue dans la perspective chrétienne, c'est que la production était précisément insuffisamment efficace, alors qu'avec le progrès technique, nous avons les moyens, dit-il, d'une égalité dans l'abondance. C'est grâce au progrès technique que la communauté chrétienne pourra être enfin réalisée. Enfin, une des dimensions qui n'est pas du tout abordée par Durkheim, c'est l'organisation, on pourrait dire politique, l'organisation de la société sous le mode d'une démocratie complète, avec des assemblées à tout niveau, locales, régionales, par activité, etc., etc. Je passe les détails, mais ce plan-là est largement sous-estimé chez Durkheim. Alors, pour conclure ce point, le communisme icarien, qui est très loin de nous, et bien entendu, que nous avons souvent oublié, il faut bien dire qu'il a fait très nettement clivage, qu'il a déterminé des clivages extrêmement profonds et de longue portée. Ce communisme icarien a été rejeté par un très grand nombre de courants qui prenaient appui sur les Saint-Simoniens et chez les fouriéristes. Ce communisme-là, c'est celui que les anarchistes plus tard continueront très longtemps d'appeler le communisme autoritaire, c'est-à-dire précisément l'absorption de l'individu dans la communauté, l'écrasement de l'individu par la communauté. On verra tout à l'heure quel point Proudhon et Marx reprendront cette critique. Mais il y a aussi une autre critique contre ce mode de communauté, ce concept, cette conception de la communauté. Une autre critique qui a été portée très, très tôt, et d'abord contre les babouvistes, c'est celle justement des Saint-Simoniens, du point de vue de l'association. Du point de vue de l'association, les individus sont classés par leurs talents, ils sont classés par leurs fonctions, et ils sont rétribués selon leurs œuvres. Ce n'est pas du tout une question d'étape, ce n'est pour eux qu'une question de justice. Le principe, disent-ils, d'émulation, de stimulation, de l'effort, précisément, ne peut pas être garanti par un principe qui donnerait à tous la même chose, quels que soient leurs efforts. Et donc, dans le texte dont je vous ai parlé, c'est-à-dire la doctrine de Saint-Simon, les disciples du maître sont très clairs sur ce point. L'association n'a rien à voir pour eux avec la communauté des biens, et cette association ne peut pas être sujette à la critique qui est faite à l'époque, justement, de l'injustice qu'il y a à donner à tous la même chose alors qu'ils ne participent pas avec la même intensité la production. C'est quelque chose qu'on peut suivre jusque dans le manifeste du Parti communiste, puisque il y est très clairement dénoncé cet idéal de petites communautés dans lesquelles régnerait, comme disent Marx et Engels, un ascétisme général et un égalitarisme grossier. Alors, la question justement se pose de savoir comment Marx et Engels vont se débrouiller, si je puis dire familièrement, avec cette distinction communauté et association. Finalement, très concrètement, comment vont-ils passer du slogan de la Ligue des Justes « Tous les hommes sont frères », « Tous les hommes sont frères », au slogan « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous », qui était, comme vous le savez, celui de la Ligue des communistes. Comment ont-ils repris à leur compte donc le nom de communisme, tout en rejetant la problématique égalitariste et ascétique de la communauté des biens qui, jusqu'alors, était dominante dans ce qui s'appelait communisme. Alors, c'est là où on en arrive à cette problématique chez Marx, et à l'idée d'une association définie comme être commun, comme Gemeinwesen. Là, il va falloir suivre le type d'opération assez compliqué que va faire subir Marx, donc à l'opposition telle qu'elle était constituée à l'époque. Marx rejette le communisme utopique comme communauté des biens, sur le mode de la communion, sur le mode du repas fraternel. C'est une inspiration qui lui fera, on peut le dire, horreur. C'est même quelque chose qu'il a en commun avec Proudhon. Il y a chez Proudhon et chez Marx un même rejet du modèle communautaire que l'on trouve chez Cabet. Alors, dès les manuscrits de 44, on trouve, je l'ai rappelé tout à l'heure, une critique du communisme brut, grossier, qui tend à généraliser la pauvreté. Il y verra moins une position anhistorique qu'une négation abstraite de la propriété privée et de la personnalité, encore marquée, dit-il, parce qu'elle nie, et qui n'a pas encore saisi, évidemment c'est tout à fait fondamental de son point de vue, qui n'a pas encore saisi le mouvement de l'histoire comme négation réelle de la propriété privée. Proudhon rejette lui aussi ce modèle, mais s'en prendra plutôt directement à ce qu'il appelle l'hypothèse communiste. On sait que Proudhon oppose deux hypothèses. Il les rejette l'une et l'autre. Il rejette ce qu'il appelle l'hypothèse communiste et il rejette l'hypothèse individualiste au profit de son fédéralisme et de son mutualisme. Le communisme, écrit-il, n'a qu'un but, c'est d'absorber l'individu dans le groupe, de le soumettre entièrement à la communauté, sans lui laisser plus aucune initiative. Et au fond, c'est l'idéal du troupeau, présidé en réalité par ce qu'il appelle un hiérarque, à qui seul, de par la loi, appartiennent la raison, la liberté et la dignité. C'est le troupeau, c'est le monde de l'esclavage. Cette position, évidemment, ne sera pas isolée ni sans suite, puisque, comme je l'ai dit, finalement, tous les courants anarchistes se référeront à cette critique-là, à la critique en tout cas du communisme autoritaire. Alors Marx, lui, a également cet objectif, ce rejet-là, mais il y a un tour de force chez lui qu'il faut bien comprendre. Au fond, le tour de force de Marx, c'est d'être parti de la modernité saint-simonienne du socialisme, en cherchant à lui rattacher, par projection dans l'avenir, la perspective du communisme présentée comme une société débarrassée de l'hypothèque, de la rareté et de la nécessité. La société communiste, donc, peut alors être coupée de toute attache au modèle de la société archaïque, celle d'avant la division du travail. C'est-à-dire que, au fond, en se rattachant à la perspective de l'organisation de la production, en reprenant ce qui, également chez Cabet, est lié à cette idée de du progrès technique comme permettant précisément la nouvelle société, l'égalité dans l'abondance. Donc Marx va rompre avec la communauté ascétique, hiérarchique, telle qu'elle était pensée selon son modèle chrétien, et telle qu'elle était critiquée donc par Proudhon et puis analysée par Durkheim. Un document est à cet égard extrêmement éloquent, extrêmement parlant, parce que au fond, il indique bien la coupure que cherche à faire Marx. C'est un texte que l'on trouve donc dans les œuvres complètes de Marx publiées en Pléiade, qui s'appelle la circulaire contre Hermann Krieg, qui date de 1846, donc à un moment extrêmement important, précisément par l'adhésion à la Ligue des communistes et surtout le passage du communisme chrétien sous l'influence de Wettling et le nouveau communisme sous la houlette de Marx et d'Engels. Dans cette circulaire d'Hermann Krieg, donc, il s'agit au fond d'une série de résolutions, pour le détail, une série de résolutions prises par un petit noyau de communistes, moins d'une dizaine, contre un Hermann Krieg, qui est un communiste allemand exilé en Amérique, et qui donc avait publié toute une série de textes d'inspiration chrétienne, et qui sont considérés dans le texte en question, dans le texte contre Krieg, dans la circulaire contre Krieg, de fanfaronnade métaphysique. Dans ce texte, donc probablement écrit de la plume de Marx, donc il s'agit de mettre en question, de dénoncer l'idéal de l'homme communiste tel qu'il est défini donc par Krieg. Ce dernier, Krieg, voyait dans l'homme communiste donc un homme prêt à se dévouer entièrement à l'espèce, c'est l'expression, et qui donc correspondait tout à fait à l'idéal dont j'ai parlé. Pour Marx, donc, cette lutte pour la société communiste devrait être comprise comme la quête du grand esprit de la communauté, comme le grand esprit qui déborde la coupe de la communion. C'est précisément contre cette confusion, et là les termes sont importants, contre cette confusion du communisme et de la communion que Marx et Engels entendent définir leur communisme, un autre communisme que celui de Krieg et de Wettling. Pour la petite histoire, c'est précisément ce geste de rupture qui fera qu'ils n'entendront plus jamais parler de Wettling, qu'ils n'auront plus aucun contact à ce moment-là avec les communistes allemands chrétiens, comme Wettling. Alors, que fait-il en fait ? C'est que Marx retourne en fait le mot de communisme, il reprend à son compte le mot de communisme, mais pour l'opposer précisément à l'idéal religieux de la communauté, auquel il était identifié jusque-là et dont il était historiquement issu. Retournement donc du mot communisme contre l'idéal de la communauté. Et ce retournement n'est possible qu'à la condition qu'en lieu et place de l'opposition entre socialisme et communisme, ce soit une autre opposition qui apparaisse, une utopie. Donc une opposition entre une utopie d'inspiration religieuse et une science du développement des sociétés. C'est-à-dire une opposition entre un communisme utopique, rejeté dans le passé de l'histoire du communisme, et un communisme scientifique, c'est-à-dire reposant sur une science du développement des sociétés. Le communisme ne désigne plus un État qui doit être créé, un idéal sur lequel la réalité devra se régler, mais le mouvement réel qui abolit l'état actuel des choses, selon les termes fameux de l'idéologie allemande. Le communisme ne se présente pas donc comme une utopie, mais comme un processus historique dont le socialisme serait la science, et comme un résultat nécessaire de ce même processus historique. On voit donc la complexité qui est introduite dans les réponses donc que le marxisme orthodoxe cherchera à effacer, ou en tout cas à lisser. Le communisme, selon Marx, n'est rien d'autre, à certains moments, que l'association saint-simonienne, qui est posée non plus comme une création imaginaire, mais comme un phénomène inscrit dans le mouvement de l'histoire. En réalité, Pierre a écrit ce passage, j'ajoute un point ici, c'est que c'est Marx et c'est surtout Engels qui imputera aux Saint-Simoniens, je dirais, le fait d'une utopie, d'une projection historique complètement inventée par un réformateur utopique. En réalité, les Saint-Simoniens, c'est assez clair sur ce point, eux-mêmes inscrivent le mouvement de l'association comme un processus historique, au point même que, comme vous le savez peut-être, des formules fameuses du manifeste du Parti communiste, en particulier le tout début du manifeste lorsqu'il oppose la plèbe et le patricien, le seigneur et le paysan, etc., ce passage-là n'est rien d'autre qu'un pur plagiat des Saint-Simoniens, de la leçon 6 de la doctrine de Saint-Simon, c'est-à-dire Marx et Engels ne sont absolument pas gênés. Il faut dire qu'ils étaient pressés par le temps, ils avaient un mois pour écrire, ou un mois et demi pour écrire le manifeste, ils ne se sont pas gênés pour recopier purement et simplement les livres qu'ils avaient sous la main, et en particulier ce texte absolument fondamental qui est donc la doctrine de Saint-Simon. En tout cas, donc, le socialisme est une science et le communisme, c'est le résultat de ce processus historique. On verra à d'autres moments de l'histoire du développement du marxisme, en particulier après la Commune de Paris, que justement il imputera aux prolétaires parisiens, aux communards, donc d'avoir finalement inventé ou d'avoir trouvé justement cette forme de la dictature du prolétariat. Mais là aussi, c'est le développement historique qui apparaît comme la production de ce que doit être le communisme. Alors, il semble en fait que dans la Commune de Paris, là aussi Marx, mais c'est un sujet extrêmement vaste, il semble aussi que Marx ait quelque peu déformé la réalité, oubliant sur ce point tout ce que le communalisme des Parisiens devait à Proudhon. En tout cas, pour ce qui est de Marx et d'Engels, lorsqu'ils utilisent le terme d'association, on peut y voir un sens qui n'est pas exempt d'équivoque. En effet, tantôt ce terme désigne un processus objectif qui est celui de la coopération et de la division du travail. Et tantôt, le terme association renvoie à la société communiste qui se donne comme l'aboutissement de ce même processus objectif. Dans les Grundrisse, par exemple, Marx écrit que l'association des travailleurs, et là on retrouve la formule typiquement saint-simonienne, c'est-à-dire la coopération et la division du travail, apparaît comme force productive du capital, et qu'en ce sens, elle n'est pas non plus posée par les travailleurs, mais par le capital, si bien que leur réunion n'est pas leur existence, mais l'existence du capital. Mais d'un autre côté, dans le capital, on trouvera précisément ce développement célèbre sur la société communiste, qui est comparé à l'activité de Robinson sur son île. Une société alors définie comme association d'hommes libres, travaillant avec des moyens de production collectifs. Et là, on peut faire valoir que Verheyen a ici le sens d'une forme institutionnelle, ce qui n'est pas le cas pour la Vereinigung du passage des Grundrisse. C'est-à-dire en réalité que on aurait une association d'un côté qui serait la forme de la société et d'un autre côté le processus qui serait précisément le processus tel qu'il est décrit dans les Grundrisse. Quand on se reporte au manifeste communiste, on y trouve en fait les deux significations et désignées par le même mot, cette fois-ci association. D'un côté, il est question du progrès de l'industrie qui substitue à l'isolement des ouvriers par la concurrence leur union révolutionnaire par l'association. Mais d'un autre côté, la société communiste est décrite comme une association dans laquelle le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous. Ce qui a pour condition que toute la production soit concentrée entre les mains des individus associés. On voit par là que le mot association renvoie à la fois donc à cette tendance objective à l'œuvre dans le capitalisme, celle de la concentration des ouvriers dans la grande industrie, et à la société à venir censée résulter du mouvement réel, c'est-à-dire de cette même tendance objective. Mais par là, finalement, et une des questions absolument centrales dans le marxisme, c'est la question du raccord. Quel raccord y a-t-il ? Quel raccord peut-on faire, pour utiliser un mot contemporain, quel raccord peut-on faire entre ce processus historique, cette tendance objective, précisément, et la société future ? Le raccord, précisément, n'est jamais véritablement opéré. Car si l'on considère le seul processus objectif de la coopération et de la division du travail, ce qui se dessine, c'est le modèle d'une société fabrique soumise à une discipline de fer. En témoigne le passage du Capital dans lequel Marx adresse aux apologues bourgeois de la division manufacturière du travail une critique qui elle-même n'est pas exempte d'ambiguïté. En effet, dit Marx, ces mêmes personnes ne trouvent rien à redire de pire contre toute idée d'organisation générale du travail social que celle-ci transformerait la société tout entière en une vaste fabrique. Certes, Marx pointe ici l'inconséquence qu'il y a à célébrer la division manufacturière du travail, tout en dénonçant tout contrôle social conscient de la production, comme une extension du modèle de la fabrique à toute la société. Mais, quand on le lit, on ne peut se défendre de l'idée que la transformation de la société en une vaste fabrique est, à ses yeux, le prix à payer pour la mise en œuvre d'une telle réglementation. Et là, je crois qu'il y a un certain nombre de passages dans la guerre civile en France, où précisément il attribue aux communards l'idée justement d'une organisation, la société comme entreprise, il attribue aux communards cette invention-là. Quant à Lénine, on sait à quel point dans l'État et la Révolution, il mettra en avant, il vantera un certain nombre de modèles organisationnel comme la poste. Et on doit évidemment se poser la question des racines, des filiations avec le saint-simonisme, c'est-à-dire précisément avec l'idée que le socialisme, c'est l'opposition d'une société de marché, c'est s'opposer à une société de marché en la substituant une société entreprise, une société fabrique, une société entreprise ou atelier. Alors, cette difficulté est moins résolue que déplacée par la thèse selon laquelle cette grande association formerait une communauté, mais au sens précisément d'un être ou d'une essence commune, Gemeinwesen. Être commun qui s'opposerait donc à la dérive, l'écueil, soit organiciste, soit spiritualiste, de la communauté au sens de Gemeinschaft, c'est-à-dire communauté comme un être moral supérieur aux individus qui exigerait de ces derniers un abandon de leurs propriétés, de leurs particularités, de leurs différences, une subordination totale, sans réserve, comme cela semblait bien le cas dans le modèle babouviste, dans l'égalitarisme grossier, pour reprendre l'expression de Marx, du communisme babouviste ou dans le communisme icarien. Alors, en ce sens, Marx répond à une préoccupation évidemment légitime. Comment obtenir de l'association qu'elle donne naissance à un tout, sans pour autant que ce tout ne soit supérieur aux individus qui le composent et aux liens qu'ils ont volontairement établis entre eux? Ce qui aurait évidemment immanquablement pour effet de défaire le lien de l'association. Mais il est plus difficile de comprendre en quoi cette essence commune, cette Gemeinwesen, donc comment cette essence commune se distingue de la communauté autoritaire et vertueuse des utopistes. On doit resituer cette préoccupation de Marx dans le contexte d'une polémique qu'il a eue avec Max Stirner. Rappelons que pour Stirner, dans son livre fameux qui s'appelle « L'unique et sa propriété », donc Stirner opposait l'association à la société ou à la communauté. L'association, disait Stirner, limite ma liberté, mais non mon individualité, car il ne s'agit que d'une convention qui ne crée aucune puissance supérieure à la mienne. Au contraire, la société ou la communauté constitue une puissance en soi ou au-dessus de moi, à laquelle je dois sacrifier non seulement ma liberté, mais mon individualité. L'État, c'est précisément la figure de la communauté en tant qu'elle revendique mon vrai moi, devant lequel je suis sommé de me prosterner. À l'inverse de cette communauté comme qui s'oppose et qui écrase l'individualité, à l'inverse, l'association, de quelque sorte qu'elle soit, est toujours ma création, elle est toujours ma créature. Elle n'est pas sacrée, elle n'est pas une puissance spirituelle dominant mon esprit. Ce que je suis comme individu ne peut donc s'affirmer que dans l'association, parce que l'association ne te possède pas, parce que c'est au contraire toi qui la possèdes et l'utilises à ton profit. Si la société que veut fonder le communisme paraît tenir de très près à l'association, il n'y a là en réalité qu'une apparence trompeuse. Le communisme, assure Stirner, en faisant référence précisément à Wettling, ne fait que donner aux principes chrétiens les conséquences les plus rigoureuses, selon l'expression donc de Stirner. En somme, si l'association n'est qu'un moyen pour le moi de renforcer sa puissance, la communauté préconisée par les communiste est en revanche exactement le contraire, c'est une fin en soi qui immole mon bien et ma propriété sur l'autel du bien commun. La société, au sens donc de la communauté, la société se sert de toi alors que tu te sers de l'association. Alors, la réponse de Marx à Stirner est précisément du côté de cet être commun. Ce qu'il faut précisément appeler la pensée de l'association communiste, selon une expression justement qu'on peut imputer à Marx, mais pas aux autres, l'association communiste. Dans l'idéologie allemande, Marx oppose à Stirner et à son association d'égoïstes la conception d'un fourrier. Et là, on a justement, pour compliquer l'opération, l'intervention d'un auteur qui précisément paraît très souvent en dehors du champ, on le met hors du cadre. Alors que Stirner fait l'éloge des unions bourgeoises et des clubs bourgeois existants, Fourier lui rapporte les associations aux conditions de production et d'échange existants et en appelle à une transformation totale et révolutionnaire de la société. De fait, lorsqu'il se représente l'individu de l'association communiste, Marx est en réalité très proche de Fourier. À l'individualisme de Stirner, il oppose l'individu total de l'association communiste. C'est-à-dire qu'il comprend par l'expression donc d'individu total un individu qui déploie une totalité de facultés dans sa propre activité de production. Ce qui implique que l'activité de cet individu ne soit plus mutilée, ne soit plus séparée de la division du travail. On obtient ainsi dans la façon de Marx, dans la façon de penser de Marx. On obtient ainsi, en réalité, une homologie même parfaite, entre le tout individu, comme déploiement de toutes ses facultés, et le tout communauté, pensé d'une manière nouvelle. Si la communauté n'est plus l'être séparé des individus, encore moins être supérieur aux individus, c'est pour autant que chaque individu est en lui-même non plus un individu morcelé, mutilé, partiel, mais l'individu total. La communauté n'est un tout hiérarchique, n'est un tout non hiérarchique que parce que chaque individu est lui-même ce tout, ce totus. De sorte que la relation des individus les uns avec les autres est une relation d'entre-expression immédiate entre ce qui est déjà, ce que sont déjà des individus comme totalité. C'est au fond ce que disait déjà un texte qui s'appelle donc les notes de lecture de 44. Je cite Marx, « Supposons que nous produisions comme des êtres humains, chacun de nous s'affirmerait doublement dans sa production, soi-même et l'autre. J'aurais dans mes manifestations individuelles la joie de créer la manifestation de ta vie, c'est-à-dire de réaliser et d'affirmer dans mon activité individuelle ma vraie nature, mon être commun, et c'est là où on trouve l'expression « Gemeinwesen », nos productions seraient moins de miroirs où nos êtres rayonneraient l'un vers l'autre. Si on suit cette ligne, rayonneraient l'un vers l'autre. Si l'on suit cette ligne de pensée, donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit une société, on voit s'ébaucher l'image d'une société personne. L'expression est reprise de Bernard Chavance dans son texte « Marx et le capitalisme ». Une société personne qui se rapporte immédiatement à elle-même en raison d'une certaine simplicité, d'une certaine transparence, d'une simplicité transparente de ses relations sociales. C'est très exactement, finalement, la vision de la société communiste telle qu'elle est donnée au début du Capital, c'est-à-dire cette association d'hommes qui dépensent consciemment leurs nombreuses forces de travail individuelles comme une seule force de travail social. Si l'on demande maintenant ce qui fait dès à présent de cet individu total une nécessité pratique, on obtient une réponse qui apparaît à certains égards bien déconcertante. Car en effet, ce qui produit cet individu total, ce qui produit cet individu qui capable de manifester la totalité de ses facultés, c'est le mouvement même de la grande industrie. C'est-à-dire le mouvement d'une grande industrie qui crée lui-même les présuppositions matérielles du remplacement de l'individu partiel par l'individu totalement développé. Le même problème demeure donc toujours. Pour échapper finalement à cette opposition de l'association et de la communauté, donc Marx parie en quelque sorte sur le développement historique, faisant donc de la division du travail dans la grande industrie le moyen, le vecteur, le support finalement de cet avenir humain dans lequel finalement il pourra voir l'association enfin réalisée des travailleurs. Mais où est le passage nécessaire? Qu'est-ce qui fait la nécessité de ce passage entre la grande industrie, qui a au contraire toutes les apparences d'un processus de mutilation, de séparation, de morcellement, et la création, l'élaboration historique, la production historique de cet individu total. Par là même, à travers cette difficulté, on mesure le destin du marxisme. Tandis que Marx a modifié le sens du mot communisme, donc pour lui faire désigner cette société d'individus émancipés de toute contrainte, les partis et les régimes communistes se sont employés plutôt après lui, comme on sait, et en son nom, au nom de Marx, à mettre en œuvre ce que l'on a bien vu, c'est-à-dire l'oppression totale, l'oppression inédite à certains égards, des individus par l'État, jusqu'à l'emprisonnement, jusqu'à l'extermination de masse. Et au fond, c'était pour le moins donner raison à Proudhon, qui pouvait craindre donc l'hypothèse communiste des philosophes abstraits, pouvait craindre cette hypothèse communiste en ce qu'elle ne donne lieu, comme il l'indiquait, au pire des régimes. Que pour pointer évidemment un auteur qui fait notre actualité, au moins dans les médias, on peut s'interroger sur la réactivation de cette hypothèse sous le signe d'un platonisme déclaré, en l'occurrence celui d'Alain Badiou. Au fond, la question c'est, est-ce qu'il n'y a pas là, face à l'effondrement justement de ces oppressions communistes réalisées, est-ce qu'il n'y a pas là l'idée d'un réinvestissement d'un communisme pré-marxiste, non pas chez le Christ, mais on peut très bien imaginer un réinvestissement aussi de ce côté-là. Aujourd'hui, au fond, et en particulier donc chez Alain Badiou, on a un réinvestissement du côté de l'égalité parfaite des biens, de la communauté des biens, dans sa forme donc pré-marxiste. C'est à cet égard peut-être qu'il vaut la peine de rappeler le jugement de Marx, qui, à propos de la République de Platon, disait que la République de Platon, dans la mesure où la division du travail est développée comme principe constitutif de l'État, n'est que l'idéalisation athénienne du système égyptien des castes. Toute la question maintenant est de savoir s'il faut redonner vie, et si oui, comment, à la doctrine du socialisme associationniste pour faire pièce à une telle remise au goût du jour de l'idéalisation athénienne du système des castes. L'idéal de la société comme grande association transparente à elle-même est-elle de nature aujourd'hui à constituer une alternative crédible face à cette nouvelle apologie de la communauté platonicienne? Évidemment, toute pensée soucieuse d'affronter la question du commun, je crois, doit trouver une issue autre que celle de Platon, de la République platonicienne, mais doit également et ne peut qu'interroger la solution bien équivoque, bien ambiguë, qui a été celle de Marx et d'Engels. Voilà. Je vous remercie.